bien entendu ? Contre l'Allemagne !
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, troisième épisode de notre série consacrée au front méconnu de la Première Guerre mondiale. Loin de Verdun, en quoi la guerre de 14-18 fut-elle mondiale? Question que nous posons avec l'historien Michael Bourlet. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué le front de l'Est, les combats qui ont opposé la Russie des Tsars à l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Des combats très durs qui se termineront par la sortie de la Russie de la guerre en 1917. Au début de l'année 1915, le front de l'Ouest s'enlise dans une guerre de tranchées qui semble bloquée et sans issue. Pour tenter de reprendre une guerre de mouvement sur de nouveaux champs de bataille, les alliés franco-britanniques décident d'intervenir en Orient. De mars 1915 à janvier 1916, ce sera la bataille des Dardanelles, qu'on appelle aussi bataille de Gallipoli. Un projet ambitieux qui, nous le verrons, tournera à l'un des pires désastres de la Première Guerre mondiale. L'idée est d'envoyer des navires en Méditerranée pour prendre le contrôle des Dardanelles, un détroit d'une soixantaine de kilomètres de long qui relie la mer Égée à la mer de Marmara, et aussi de s'emparer de Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman qui, depuis 2 mois, est l'allié de l'Allemagne. Outre l'avantage de vaincre un ennemi, la prise des détroits entre la Méditerranée et la mer Noire permettrait aux franco-britanniques de rétablir les liaisons maritimes avec leur allié, la Russie. Et pourquoi pas, en prenant de revers l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, de mettre un terme à la guerre.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce soit un succès. Parce que si c'est un succès, nous aurons Constantinople dans une semaine. Et la Turquie sera à genoux. Tout est prêt pour vous, Kevin ?
Oui, tous les canons sont en position. À l'aube, le bombardement commencera et nous l'arrêterons à 4h30, très précise.
Nous préparons à attaquer les positions turques et nous savons que notre pays sera fier de nous.
Côté britannique, un des inspirateurs du projet n'est autre qu'un certain Winston Churchill, qui, en ouvrant ce nouveau front, souhaite, je cite, « que les soldats cessent de mâchouiller du barbelé dans les Flandres ». Âgé de 40 ans en 1915, Churchill occupe depuis 4 ans le poste de premier lord de l'amirauté, version britannique de ministre de la marine. Un poste très important. Rappelons-le, à l'époque, l'Empire britannique domine encore les mers. Churchill piaffe d'impatience de voir la Royal Navy intervenir dans le conflit. L'occasion se présente donc enfin. Mais les franco-britanniques, sous-estimant la capacité de résistance de l'Empire ottoman, qualifié depuis le 19e siècle d'homme malade de l'Europe, n'accordent que des moyens limités à cette opération, qualifiée par le ministre de la guerre britannique, Lord Kitchener, de croisière en mer de Marmara. Une erreur dont ils feront bientôt les frais. Le 18 mars 1915, à 11h du matin, une escadre de 18 cuirassés s'engage dans le détroit des Dardanelles. Mauvaise surprise, ils sont accueillis par des mines dérivantes qui vont faire des ravages. Plusieurs navires français et britanniques sont coulés ou sévèrement endommagés. Un mauvais coup qui, cependant, n'arrête pas l'opération. Un mois plus tard, le 25 avril, des milliers de soldats britanniques, français, australiens et néo-zélandais, parmi lesquels des Indiens, des Maoris, des Marocains, des Sénégalais, débarquent sur la presqu'île de Gallipoli qui borde le détroit des Dardanelles. Mais les stratèges n'ont pas prévu que ces hommes vont débarquer sur des plages étroites, surplombées par des falaises où les attend le déluge de feu des tireurs turcs.
Dites au major Barton que l'attaque doit être poursuivie.
Colonel, vous ne vous rendez pas compte? Ils se font descendre avant d'avoir fait 5 mètres.
Nous devons poursuivre notre attaque, quoi qu'il en coûte.
Ce qui devait être une guerre de mouvement devient vite une guerre de siège avec ses tranchées comme sur le front de l'Ouest. Un enfer qui va durer des mois. Surnommé le cul-de-sac de la mort par le reporter de guerre Albert Londres, présent aux Dardanelles. Et comme on ne secourt pas les blessés et qu'on ne retire pas les morts, les plages se transforment en un immense charnier dont l'odeur insupportable parvient jusqu'aux navires au large. Une épidémie de typhoïde et de dysenterie se déclare dans les troupes. Il faut attendre l'automne 1915 pour que les franco-britanniques reconnaissent l'échec de l'opération et ordonnent l'évacuation des troupes. Au total, la bataille des Dardanelles coûte la vie à plus de 100 000 hommes, pour moitié des Ottomans et pour moitié des Français et des Britanniques, en englobant les Australiens et les Néo-Zélandais.
C'est une offensive qui a été mal préparée, à laquelle les Britanniques notamment ont accordé très peu de moyens. Voilà. Donc ce qui fait que lorsque les hommes débarquent, eh bien, il n'y a pas assez de force, de puissance. Ce qui devait être une course folle vers Constantinople, eh bien, se transforme en une guerre d'attrition, une guerre de position, d'usure, qui condamne cette opération amphibie d'abord, et ensuite cette opération terrestre. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, les Britanniques ont sous-estimé leur adversaire. Il y a un rapport, en fait, encore de dominants, d'Européens, qui considèrent en fait que les Ottomans sont faibles et qu'on va les détruire facilement. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est une surprise.
C'est vrai que l'Empire ottoman est en état de faiblesse, mais il y a des militaires, il y a un certain Mustafa Kemal, futur dirigeant de la Turquie, qui est à la manœuvre.
Et il n'y a pas que des Turcs non plus qui se battent. Il y a aussi des Kurdes, il y a aussi des Arabes qui sont affectés dans l'armée ottomane et qui se battent. Après, la mémoire turque gardera le souvenir uniquement des soldats d'origine turque. Et on écartera en fait ces minorités, entre guillemets, de l'Empire ottoman qui servait aussi.
Elle oubliera aussi le génocide arménien.
Ouais, et au passage, voilà. Et d'ailleurs, dans les commémorations du centenaire, Erdogan a fait en sorte de rassembler tous les belligérants dans un symbole de paix. Et ça, c'est une tradition ancienne en Turquie. Hein, l'idée d'associer, ça remontait déjà à Mustafa Kemal, l'idée d'associer les Néo-Zélandais, les Australiens et les Turcs pour commémorer cette bataille. Mais au moment du centenaire, le président turc fera bien oublier quand même, dans son message de paix, les Arméniens, en fait.
Et je crois qu'il y avait aussi une méconnaissance du terrain. C'est quand même fou d'envoyer des hommes se jeter sur des plages étroites et surplombées par des falaises où, évidemment, les Turcs sont amassés et tirent comme sur des lapins.
Amassés, oui et non, parce qu'il y a des secteurs où il y avait très peu de soldats turcs, parce que les Turcs n'avaient pas aussi une armée extensible. Donc, il y avait des secteurs qui n'étaient pas couverts. Mais les opérations de débarquement ont tellement été longues, parfois très procédurières. Ça laisse le temps à l'adversaire, donc aux Turcs, de déplacer des soldats et de garnir, en fait, des nouvelles positions pour rejeter, ou tenter de rejeter l'assaillant à la mer. Voilà. Mais on ne fait jamais à la guerre, on ne fait jamais une opération militaire pour rien. Donc il y a toujours un objectif, mais après, bon, voilà, il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine et ce qui se passe réellement sur le terrain.
Voilà. Michael Bourlet, et Churchill, quelle est sa part de responsabilité dans ce désastre? Je crois que sa femme disait, les Dardanelles l'ont hanté pour le restant de ses jours, il y a toujours cru, quand il a quitté l'amirauté, il se croyait fini.
Ouais, alors il est responsable, il a joué un rôle puisque c'est lui qui a ordonné ça. Alors c'était pas son coup d'essai parce qu'il avait déjà aussi organisé une opération du même type en amphibie pour sauver l'armée belge en 1914 à Anvers. Voilà, ça n'a pas bien marché. Et là, il renouvelle. Derrière tout ça, il y a aussi un peu de rivalité franco-anglaise parce que les Français avaient un autre projet dont on reparlera plus tard, c'est-à-dire l'Orient. Et puis les Français sont quand même préoccupés par l'Artois, par la Champagne en France. Donc ils laissent ça aux Britanniques. Ils voient louer quelques troupes, quelques divisions françaises, mais on laisse la main à Churchill qui pilote tout ça en partie, et c'est lui qui est en partie responsable, et il s'en voudra beaucoup après, parce que c'est une catastrophe quand même.
Il y aura une crise politique d'ailleurs en Angleterre.
À Londres, bien sûr, oui.
Il va porter le chapeau un peu pour les autres.
Lui va repartir. Alors lui, il repart au front, il repart sur le champ de bataille dans les Flandres, avec son unité, et c'est un séisme, d'autant plus qu'il y a d'autres séismes même, au même moment dans l'Empire ottoman. L'armée britannique est vaincue aussi en Irak, contre des Turcs, donc dans le fameux siège de Kout. Donc c'est, pour les Britanniques, c'est quand même des séismes très, très forts, politiques, militaires.
Cette bataille des Dardanelles est importante aussi pour la mémoire des Australiens, des Néo-Zélandais qui se sont engagés dans cette guerre d'une manière assez importante, qui ont été envoyés. Mmh. Et la mémoire, je crois, est très importante. Cette date du 25 avril.
Oui, alors c'est intéressant. C'est vraiment une particularité de la Première Guerre mondiale. C'est que pour tous ces nouveaux pays, entre guillemets, la Première Guerre mondiale est fondatrice. C'est le cas pour les Canadiens à Vimy, dans le nord de la France. C'est le cas pour les Néo-Zélandais et les Australiens, avec l'Anzac Day, qui est commémoré chaque année. Hein,
le 25 avril.
25 avril, et qui est commémoré partout, et qui aujourd'hui a une dimension, je dirais, plus générale, puisque ça regroupe toutes les batailles dans lesquelles les Néo-Zélandais et les Australiens ont été engagés. Mais c'est une bataille qui donne, qui fonde, qui est un socle, en fait, pour ces pays aujourd'hui, puisqu'elle donne naissance à ces pays, enfin, qui existent vraiment. Ils ont versé leur sang au combat. Voilà.
Est-ce qu'il reste des monuments, aux Dardanelles?
Oui, il reste beaucoup de monuments.
Des cimetières, j'imagine.
Alors, il y a des cimetières assez étonnants. Il y a tout un tas de monuments, évidemment, français, britanniques, néo-zélandais, turcs aussi, hein, avec un monument qui est assez étrange, donc, sur la péninsule, où on voit des soldats turcs en statue, qui ont été placés sur la plage, hein, pour montrer la résistance des Turcs, parce que pour eux, c'est une grande victoire, et encore aujourd'hui, c'est vu comme ça, quand même.
Merci Michaël Bourlet. Dans le prochain épisode de notre série consacrée aux autres fronts de la Première Guerre mondiale, nous parlerons d'un théâtre d'opération qui a été déterminant, la guerre dans les Balkans, où étaient aussi engagés des Français et qui reste très méconnu.